Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, l'essayiste Philippe Manière, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et un nouveau venu dans notre orchestre dominical, un petit nouveau, le politologue et professeur de relations internationales à Sciences Po, Bertrand Badi. Pour ce dernier dimanche de l'année 2018, une seule question, 2019, quelle Europe ? L'an dernier, à la même époque, on avait dit au revoir à la disruptive année 2017, celle qui avait consacré notamment le trumpisme aux États-Unis et le macronisme en France. Des forces politiques nouvelles qui balayaient tout sur leur passage, pratiques et partis politiques traditionnels. Après la disruption, il y avait en toute logique la reconstruction. Sauf que 2018 donnait surtout l'image d'une très grande désorganisation générale. La France se remettait à peine de longues semaines de chaos politique et sociétal avec la crise dite des Gilets jaunes. L'Amérique s'habituait à vivre avec les pics de fièvre que déclenchait régulièrement l'imprévisible maître de la Maison-Blanche. Quant à l'Union européenne, elle apparaissait de moins en moins comme un grand tout structuré, mais bien plus comme en cours de fragmentation. Du 23 au 26 mai prochain, les élections européennes se tiendraient donc dans 27 États membres de l'Union, et il fallait bien le reconnaître. L'Union européenne qui croyait pouvoir offrir au monde entier un modèle de paix, de stabilité politique et de prospérité était dans un état désastreux. Le centre et l'est de l'Europe embrassaient les thèses de la dite démocratie illibérale. La Grande-Bretagne était enlisée dans son Brexit. Le couple franco-allemand n'était plus audible en tant que moteur de l'Europe, Macron-Merkel rencontrant trop de difficultés au plan intérieur pour être crédible à l'extérieur, tandis que portaient haut et fort les voix des Salvini, Orban et autres dirigeants dits populistes et nationalistes, à l'image de ce ministre polonais des Affaires étrangères qui avait déclaré le 17 décembre dernier, que la France, je cite, « tirait l'Union européenne vers le bas », évoquant les Gilets jaunes et l'attentat djihadiste de Strasbourg et ce retrait du président français de la réforme de l'État qui devait le conduire à ne plus donner de leçons à quiconque en Europe car il devait commencer par remettre de l'ordre dans son pays. Dans ce contexte, allait-on vivre ces 6 prochains mois une mise à plat, une mise à mort ou une remise à neuf du projet européen ? 2019, printemps ou enterrement de l'Europe ?
L'Europe, et en son sein le couple franco-allemand, se trouve investi de cette obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos et de l'accompagner sur le chemin de la paix. C'est pour cela que l'Europe doit être plus forte. C'est pour cela qu'elle doit être plus souveraine, parce qu'elle ne pourra jouer son rôle si elle-même devient le jouet des puissances, si elle ne prend pas davantage des responsabilités dans sa défense et sa sécurité, et se contente de jouer le second rôle sur la scène mondiale.
Emmanuel Macron qui s'exprimait le 18 novembre dernier devant le Bundestag, le Parlement allemand. Bertrand Badi, bienvenue dans l'Esprit Public.
Merci de m'accueillir.
Quel rôle peut encore jouer Emmanuel Macron dans cette campagne des européennes qui va s'ouvrir très rapidement, début 2019 ?
Dans un premier temps, il était tout seul ou presque. Maintenant, il n'est plus là. Donc effectivement, on est dans une situation plutôt régressive. Pourquoi il n'est-il plus là ? Parce que effectivement, la situation telle que nous l'avons vécue en France lui joue un double mauvais tour. D'une part, parce que l'effet d'affiche ne lui permet plus tellement d'être le moteur de cette refondation de l'Europe, qui était un bon mot. Je trouve un mot bien trouvé et tout à fait pertinent. Et d'autre part, parce que le voilà pour un bon bout de temps englué dans d'autres problèmes, peut-être plus compliqués encore à gérer. Moi, ce qui m'effraie pour l'Europe, c'est que il y a toujours eu des divisions, toujours eu des débats en Europe. Rappelez-vous, celles et ceux de ma génération se souviennent l'époque de l'Europe à 6, qui était déjà clivée, qui a été en situation d'affronter des crises très graves. Mais finalement, l'opposition, c'était entre le frein et le moteur, et on trouvait toujours un compromis entre les deux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on est face à cette vague néo-nationaliste qui est en train, de nier l'Europe de l'intérieur. C'est-à-dire, les néo-nationalistes veulent rester dans l'Europe. Le Brexit reste un phénomène marginal, et je crois que la manière dont il se déroule fait que la Grande-Bretagne ne sera probablement pas imitée. Mais les anti-européens veulent rester à l'intérieur de l'Europe, ce qui est une source de blocage absolument énorme pour celle-ci. Et on a vu tous les moteurs possibles de redémarrage s'éteindre les uns après les autres. L'Allemagne face aux problèmes intérieurs, la France, on en parlait il y a un instant. Donc effectivement, je pense que l'Union africaine se porte beaucoup mieux.
C'est le tandem Macron-Merkel qui est condamné à se taire ou à ne pas être audible dans cette campagne, Sylvie Kaufmann ?
Ça fait partie du problème, en effet. Alors, c'est une partie importante c'est une composante importante du blocage européen. Les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, puisque rappelez-vous, à la mi-2017, élection de Macron, reflux de ce qu'on croyait être un reflux de la vague populiste, et grand espoir, immense espoir dans le redémarrage de ce fameux moteur franco-allemand sans lequel rien n'est possible pour faire avancer l'Europe. Et puis, septembre, magnifique discours de la Sorbonne avec un nombre assez impressionnant de propositions pour refonder cette Europe. Mais deux jours avant, 24 septembre, élection allemande. Et là, ça a sonné le glas. En réalité, on s'en est pas aperçu tout de suite. Mais cette élection allemande qui a totalement déstabilisé les partis traditionnels allemands et tout le système politique allemand qui, depuis, vide une crise permanente, a sonné le glas des espoirs de refondation de cette Europe, en tout cas dans ce cycle-ci, parce que ce tandem franco-allemand ne pouvait plus fonctionner sur sa propre dynamique. Il y a eu 6 mois de négociations pour former une coalition gouvernementale allemande, et la dynamique qu'avait lancée l'élection de Macron s'est totalement éteinte à ce moment-là. Martin Schulz, vous vous rappelez, qui était notre grand espoir du SPD allemand, est parti en rase campagne. Voilà, donc tout ça s'est écroulé, tout cet espoir s'est écroulé. Et depuis, on voit que... C'est très étrange, cette relation franco-allemande. On a écrit des livres et des livres dessus, mais c'est fascinant à observer parce que les deux pays sont indispensables l'un à l'autre. Ils sont maintenant liés par un réseau de relations bilatérales tellement étroit qui a été tissé depuis 5 décennies en réalité. Donc on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre, mais... Et l'Europe ne peut pas vraiment avancer, c'est vrai, sans que la France et l'Allemagne travaillent ensemble, ou la fassent, donnent une impulsion ensemble, mais elles ne sont jamais au même tempo, en réalité. Voilà, donc je crois que la solution, si on veut faire avancer l'Europe, et on y reviendra, je pense qu'on peut encore la faire avancer, mais il faut s'y prendre autrement.
Ce binôme-là ne peut plus être le moteur dans cette campagne.
Voilà, je crois que ce format, il n'est plus suffisant. Il n'est plus suffisant, il faut continuer évidemment à travailler ensemble, et on le fait tous les jours, hein, on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de choses qu'on fait ensemble, les Français et les Allemands, c'est très très impressionnant. Mais ça ne suffit plus, ce format-là est dépassé, il ne faut plus seulement compter sur le soi-disant moteur franco-allemand ou le couple franco-allemand. Il faut qu'il y ait d'autres éléments de la famille européenne qui s'y mettent. Et je pense que Macron avait commencé un petit peu cette démarche en allant voir d'autres pays de l'Union européenne. Il avait commencé à visiter un peu toutes les capitales. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va être un petit peu occupé par son agenda intérieur. Mais je pense que ça, c'est une démarche qu'il faut étudier, en effet, de travailler beaucoup plus avec les petits pays qu'on a eu un peu trop tendance à ignorer.
Trouver de nouveaux partenaires ou confier le leadership de la relance du projet européen à d'autres. C'est par exemple l'ambition de, vous savez, ce qu'on appelle la nouvelle ligue hanséatique, Philippe Manière, qui regroupe des membres de la zone euro comme l'Irlande, les Pays-Baltes ou les Pays-Bas, des non-membres comme la Suède ou le Danemark. Et cette ligue affirme aujourd'hui que l'approfondissement de l'Europe ne passe pas par de nouvelles décisions plus ou moins fumeuses, mais par le respect des traités existants. Et pour cette ligue, ce ne sont pas les 130% de dette de l'Italie ou les 45% de dette de la France qui rendent aujourd'hui possible que le leadership continue d'être français.
Enfin, la France, c'est bien plus de 45% de dette. Évidemment, on a perdu pratiquement toute crédibilité, nous, Français, pour donner des leçons. Si vous voulez, il y a eu une espèce de miracle après l'élection d'Emmanuel Macron, laquelle, d'ailleurs, était, d'un point de vue purement arithmétique, un peu un miracle. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, il était très peu probable que les partis populistes l'emportent, mais on aurait ex ante, il était très difficile d'imaginer que quelqu'un d'aussi européen et d'aussi manifestement antipopuliste et aussi susceptible de porter l'opposition au populisme fût élu. Donc il y a eu cette espèce d'engouement en France, mais aussi en Europe, il y a maintenant 18 mois, qui est aujourd'hui complètement éteint, à cause de la crise qu'on a connue à la fin de l'année, qui est éteint aussi parce que si Emmanuel Macron avait remis de l'ordre dans les finances publiques, il aurait été plus crédible. Donc cette crise est venue enfoncer le clou, mais dès avant, on voyait bien que la France ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour être en situation de conduire un projet de réforme et d'approfondissement de l'Union européenne, lequel d'ailleurs est loin d'être consensuel dans l'Union. C'est-à-dire qu'on oublie toujours, nous Français, qu'à part les Wallons et nous, il n'y a pas grand monde qui veut approfondir l'Europe, la rendre plus importante, plus profonde, plus compétente dans des tas de domaines. L'Europe, c'est une chimère dans tous les sens du terme, au sens de la construction un peu bizarre faite de briques et de brocs, ce qui n'emporte pas, de mon point de vue, de jugement négatif, évidemment. Enfin, techniquement, l'Europe est une construction institutionnelle, une construction historique, sui generis, très singulière. C'est aussi un peu une chimère au sens de l'idée qu'en ont les Français d'un ensemble d'êtres humains nombreux et riches susceptibles d'exercer une souveraineté, pour la raison très simple que les États ne sont pas abolis. Je participais il y a quelques jours à un échange à propos de l'Europe de l'espace. L'Europe de l'espace peut-elle encore exister entre la Chine et les États-Unis. Un des orateurs, alors c'est un peu, faut faire attention parce que la traduction n'est pas complètement la même, mais il disait, il n'y a pas de raison que l'Europe ne soit pas aussi puissante, aussi rayonnante que other nations, les autres nations. Oui, mais précisément, c'est ça le problème, c'est que nous ne sommes pas une nation. Et la raison pour laquelle, en matière spatiale, mais pas seulement, sinon je vous embêterai pas avec ce sujet technique, en matière spatiale, comme dans les autres domaines, l'Europe a du mal à exister, et évidemment c'est encore plus vrai si on parle de sujets où la souveraineté est encore plus en cause, c'est précisément que nous ne sommes pas, comme la Chine, comme les États-Unis, une nation. Et donc pour que l'Europe se porte bien, il faut qu'il y ait une envie d'un nombre suffisant de nations d'accepter les abandons de souveraineté qui ont déjà été consentis et éventuellement d'en consentir de nouveau. Nous ne sommes évidemment aujourd'hui pas du tout dans cette situation et nous le sommes, j'allais dire, presque moins que jamais. En tout cas, beaucoup moins à l'évidence que c'était le cas il y a 18 mois.
Constat sombre de cette absence aujourd'hui d'ambition européenne ou d'envie d'Europe, comme dit Philippe Manière, Aurélie Filippetti et puis Bertrand Badie, que je voyais tiquer à ce que disait son voisin.
Moi, je pense que surtout ce qui a été totalement oublié en Europe par les dirigeants européens et par les dirigeants des États membres de l'Union européenne, qui sont absolument sur la même longueur d'onde, c'est la question de la souveraineté du peuple, que ce soit les peuples dans chacun des États ou le peuple européen au sens de l'entité politique. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une seule nation pour avoir un peuple au sens d'un sujet politique. Et donc, le problème, c'est que l'Europe telle qu'elle fonctionne et depuis longtemps ne fonctionne pas d'une manière réellement démocratique. Et donc, finalement, les gens, après avoir pendant des années, même des décennies, cru et mis tous leurs espoirs dans une forme de progrès qui viendrait de l'Europe, d'idéal européen, qui est évidemment l'idéal de la paix, mais aussi un idéal d'amélioration du sort de chacun des peuples, ben finalement, les peuples se sont dit, ben non, finalement, cette Europe, elle est là pour détruire ou en tout cas amoindrir le peu que l'on a. Et donc, en oubliant totalement cette dimension populaire, l'Europe s'est reniée elle-même face à des États autocratiques qui, évidemment, n'ont pas ce souci-là du bien-être de leur peuple. Donc, je crois que la montée aujourd'hui des mouvements et des anti-européens au sein de l'Union européenne, c'est le fruit du renoncement de l'Europe à ses propres valeurs et à ses propres idéaux.
Alors, est-ce que cela veut dire qu'on abandonne l'Europe et qu'on prend comme porte-voix ou qu'on s'en remet à ces porte-voix tonitruants qu'on entend ces derniers mois et notamment Matteo Salvini? Écoutez, par exemple, comment le ministre de l'Intérieur italien parle de ce projet européen.
I nemici dell'Europa sono coloro che sono asserragliati nel bunker di Bruxelles.
Les ennemis de l'Europe sont ceux qui sont retranchés derrière le bunker de Bruxelles. Les ennemis du peuple européen et du bonheur de ce peuple sont Juncker et Moscovici. Ils ont apporté la précarité et la peur en Europe et ils refusent d'abandonner leur fauteuil.
Voilà, Matteo Salvini qui s'exprimait le 8 octobre dernier aux côtés de Marine Le Pen, venue le visiter à Rome pour lancer leurs initiatives communes en vue des européennes. Bertrand Badi, voilà, ce seront ces voix-là qui vont dominer le débat de cette campagne des européennes 2019 ?
Oui, très probablement, et je crois que le débat est lancé déjà entre nous. Je tiquais tout à l'heure, et très vite je vais rebondir sur ce que je viens d'entendre, mais je tiquais tout à l'heure que vous disiez que l'Europe est une chimère. L'Europe n'est pas une chimère, parce que l'Europe s'est réalisée, elle s'est accomplie.
Je veux dire, m'avez mal compris, je disais chimère au sens de la construction baroque, au sens, j'allais dire, quasiment étymologique. C'est-à-dire que la chimère, c'est une construction faite de briques et de brocs. Naturellement, elle a une existence institutionnelle incontestable. Ça n'est évidemment pas le contraire que je voulais dire.
Mais parce que vous regardez l'avenir à partir du passé. Et ça, il faut jamais faire ça quand on observe le politique et la société. C'est rien n'est figé dans l'ordre mondial. Et considérer que l'étalon absolu et définitif de toute mesure, c'est la nation, ne me paraît pas faire sens, ou alors ça donne des catastrophes telle la catastrophe vocale que l'on vient d'entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La nation, ça correspond à un moment de l'histoire. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte qui s'appelle la mondialisation. Et être dans un contexte qui s'appelle la mondialisation, ça veut pas dire la nier, la rejeter, en avoir peur. Ça veut dire tout simplement faire de la mondialisation quelque chose de bon. Hein, parce que la mondialisation, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne mondialisation, la mauvaise mondialisation, et le tout, c'est effectivement privilégier la bonne mondialisation. Privilégier la bonne mondialisation, c'est-à-dire savoir transformer la nation jusque dans son sens profond, de manière à ce qu'on puisse adapter le gouvernement des peuples et le gouvernement des hommes à cette donnée nouvelle. Je trouve que l'Europe a parfaitement réussi jusque dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'elle avait trouvé le bon ton, qui était le ton associatif des États, nations, s'associer, effectivement, c'était une addition de souveraineté. Maintenant, ça marche plus. Il faut passer à autre chose, et c'est là qu'intervient le blocage. Mais ce n'est pas un effet de briquet de broc, c'est simplement par le fait que l'on ne veut pas passer à la seconde étape de l'Europe. On a eu l'Europe association, très bien, ça nous a permis de reconstruire et ça nous a surtout permis de garder la paix. Maintenant, on a besoin de l'Europe solidarité, ce qui est tout à fait différent. Et effectivement, moi je rejoins ce que disait Aurélie il y a un instant, c'est-à-dire que l'Europe solidarité, c'est aussi une façon de construire un peuple européen qui n'est pas une nation européenne et qui prend en main son destin. Mais ça veut dire aussi que ce qui se passe en Grèce concerne un Allemand de manière directe et immédiate, et qu'il ne s'agit pas de faire des profits sur les prêts que l'on donne à la Grèce. C'est ça l'équation nouvelle. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui face à effectivement cette vision inscrite dans le passé? On a peur du changement. On a peur de la mondialité, on a peur de la mondialisation, et on se dit, la seule façon de se protéger, c'est de faire comme avant, faire comme s'il n'y avait rien changé, restituer les États-nations, comme on entend M. Salvini le dire, ou comme M. le ministre des Affaires étrangères, j'arrive jamais à me rappeler le nom d'ailleurs.
On s'en tiendra.
Voilà.
Sylvie Kaufmann le prononce à la perfection.
Merci de m'avoir aidé. Mais je veux dire que le problème, et ça je crois qu'Emmanuel Macron a raison, il n'a pas raison tout le temps, hein, mais sur ce point il a raison, il faut refonder, c'est-à-dire il faut trouver une autre équation. Mais pourquoi faut-il disqualifier l'idée d'une autre équation sous prétexte qu'avant c'était pas comme ça, qu'avant ça marchait, alors qu'on sait très bien que les formules d'avant ne peuvent pas marcher aujourd'hui? Ça donne effectivement des gouvernements nationalistes qui sont en fait des gouvernements contestataires. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à vendre, rien à proposer, simplement, effectivement, vendre de la contestation du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin.
Sylvie Kaufmann, comment on évitera finalement que le piège se referme sur la manière dont ce débat s'enclenche déjà, c'est-à-dire une opposition binaire, frontale, entre ce qu'il faut appeler le camp des progressistes ou le camp des européistes, comme disent les populistes, et de l'autre, les populistes ou les néo-nationalistes, comme dirait sans doute Bertrand Badi.
Je voudrais donner raison à la fois à Aurélie Filippetti et à Matteo Salvini.
Ce qui est improbable.
La chose dont vous avez parlé tous les deux, c'est le peuple. Et c'est vrai qu'on a oublié l'Europe. Pour qui on a un peu oublié pour qui était faite l'Europe, c'est-à-dire pour les gens, pour les citoyens, pour le peuple. Et on a le même problème au niveau national dans la plupart de nos pays actuellement, dans toutes ces crises successives que nous expérimentons, y compris en France avec les Gilets jaunes. Donc, ce qui est paradoxal avec Emmanuel Macron, c'est que dans sa campagne, il avait cette préoccupation. Il a fait campagne sur l'Europe qui protège. Et puis une fois qu'il était au pouvoir et ses dirigeants européens oublient en général quand ils vont à Bruxelles, ils ont un peu tendance à oublier.
Mais c'est pas lui qui décide pour l'Europe, Sylvie. Donc quand bien même il aurait eu des idées excellentes pour l'Europe, c'est ça que les Français oublient toujours. Ce n'est pas la France qui décide en Europe. Donc même s'il avait la meilleure idée du monde, il faudrait convaincre les autres.
Philippe, oui, mais la France, elle doit défendre ses positions.
La France est un pays fondateur.
C'est ce qu'elle a fait.
La France est un pays fondateur et est aussi un des pays importants de l'Union européenne.
C'est pas le plus crédible.
C'est peut-être actuellement, mais si la France ne bouge pas, c'est ce qu'on disait au début. Si la France et l'Allemagne ne bougent pas, c'est difficile de faire bouger l'ensemble. Donc, dans ce bunker de Bruxelles dont parlait Salvini, c'est vrai qu'il y a un effet bunker que les gens ressentent de manière très très forte. Alors, il y a des efforts qui sont faits, mais on n'en parle pas assez. Et je dois dire, le Bruxelles est un désastre en termes de communication. Mais les gens qui font l'Europe, c'est-à-dire les dirigeants européens, quand ils vont à Bruxelles, après, quand ils reviennent chez eux, ils sont incapables d'expliquer ce qui a été fait. Et ça, c'est un désastre, c'est vrai, sur le plan politique. Mais l'Europe sociale, elle avance un tout petit peu. La directive sur les travailleurs détachés, c'est quand même une avancée. Ça a été compliqué, très compliqué à mettre en route, mais c'est une avancée. Sur le plan fiscal aussi, on voit que c'est très difficile, mais on essaye d'avancer petit à petit. C'est vrai que c'est très lent et c'est compliqué parce que le système institutionnel qu'on a freine énormément les choses et rend les choses très difficiles à adopter les décisions à faire passer dans la vie quotidienne. Mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Alors, néanmoins, attention aux effets de loupe. Rappelait récemment une publication de la Fondation Robert Schuman, le numéro 491 de la revue Questions d'Europe. On a le sentiment, c'est vrai, particulièrement par les temps qui courent, que les néo-populistes ou néo-nationalistes présentent un front uni et donc aussi un discours commun, un discours uni. Or, en réalité, ils ont des divergences profondes et sur des sujets majeurs, notamment l'immigration. Par exemple, Matteo Salvini, qu'on entendait à l'instant, souhaite que les autres États membres acceptent de répartir les migrants. Mais Viktor Orban, lui, par exemple, est loin de partager cette vision. Il ne veut pas en accueillir, comme les Slovaques, comme les Tchèques et comme les Polonais. D'ailleurs, on écoute tout de suite Viktor Orban.
Nous pensons que la migration est un danger pour notre sécurité et une menace pour la culture européenne chrétienne. Nous avons donc décidé de présenter notre propre proposition, une série d'amendements proposés par la Hongrie et dont le point central est de demander à Bruxelles de ne plus mettre l'accent sur le processus de relocalisation au détriment de la protection des frontières.
Bertrand Badie, au fond, là, on l'entend bien, cette fragmentation qui met en évidence la difficulté que ces partis eurocritiques ou eurosceptiques auraient à s'unir sous une seule bannière, et notamment pour former un seul groupe dans ce Parlement européen d'après les élections.
Enfin, la divergence est trompeuse, parce qu'effectivement, un Salvini qui dirige un pays comme l'Italie, qui accueillait, parce qu'elle était en face de la Méditerranée, la plupart des migrants, demande à partager, c'est une façon de vouloir moins de migrants. Et que la Hongrie, qui est bunkérisée derrière ses frontières, parce que ces régimes-là aussi sont des bunkers, n'est-ce pas, l'idée même de la répartition est considérée comme une détérioration par rapport à la situation d'origine. Donc, c'est le même réflexe anti-migratoire qui est présent.
Mais les modalités sont différentes.
Les modalités sont différentes, mais l'esprit est en fait le même. Mais justement, ce qui, moi, m'inquiète le plus pour l'Europe, à travers la question migratoire, c'est le refus absolu de l'imagination. C'est-à-dire que, depuis que se pose la question migratoire, et ça fait déjà un certain temps, je ne parle pas des 50 000 personnes qui sont au fond de la Méditerranée, je ne parle pas de tous les drames humains que l'on a pu recenser, mais la seule réflexion menée est une réflexion répressive, ou en tous les cas, d'endiguement. Alors qu'il n'y a jamais eu, au sein de l'Europe, une amorce de réflexion projective, c'est-à-dire comment peut-on imaginer les flux de personnes dans les décennies et les siècles qui vont venir, comment l'Europe peut s'adapter justement à cette fameuse mondialisation qui nécessairement va banaliser ces flux parce que les gens communiquent plus ensemble, parce que les transports sont plus faciles, parce que la scène mondiale tente à s'unifier. Le fait qu'il n'y ait eu en Europe mais rien, absolument rien pour délibérer sur ce que pourrait être le monde de demain intégrant le paramètre de l'immigration. Ça ne veut pas dire l'immigration libre. Ça ne veut pas dire lever les frontières comme on l'entend. C'est pas ça du tout. Mais envisager
ça peut être l'immigration
régime,
choisie, qui est le nom de ce projet de loi qui a été adopté il y a quelques jours en Allemagne.
Un régime international de la migration, comme il y a un régime international de l'aviation civile, comme il y a un régime international du commerce. Positiver cette pensée. Essayer de définir tout ce que l'on peut retirer de positif aussi des flux migratoires. Ça, cette réflexion, elle est interdite, elle n'est même pas amorcée au sein de l'Europe. C'est la principale pathologie de l'Europe. C'est-à-dire, effectivement, une Europe qui vit sur les ressources de son passé et qui ne sait pas imaginer l'avenir. Et surtout, faiblesse des faiblesses, l'Europe n'a jamais su se positionner dans la mondialité parce que l'Europe s'est toujours crue toute seule. Et le reste, c'est la périphérie, c'est le tiers-monde, c'est...
Aurélie Flippetti.
Oui, moi je voudrais faire un lien entre aujourd'hui, effectivement, l'obsession migratoire hein, qu'on retrouve partout en Europe, et y compris malheureusement dans nos pays qui restent quand même des pays démocratiques face à Orban et face à des autocrates
Salvini,
comme
etc.
des Salvini.
Mmh.
Mais malgré tout, cette obsession de la migration, ça a été aussi, pour beaucoup de dirigeants politiques, une forme de dérivatif face à leur incapacité à gérer les questions économiques et sociales. Et il faut se rappeler, je suis toujours frappée à quel point on oublie qu'en 2008, on a traversé, depuis 2008, une crise économique d'ampleur comparable à celle de 1929. Que le chômage et que l'affaissement de la croissance qui s'en est suivi a été géré d'une manière absolument désastreuse par les instances de l'Union européenne qui ont imposé des politiques totalement à contre-courant de ce qu'il fallait faire, des politiques qui ont en fait aggravé la crise, aggravé le chômage au lieu, au fond, d'aider les économies à repartir, et que ben, finalement les gens des classes moyennes, des classes populaires ont pris de plein fouet cette terrible crise, et que du coup, évidemment, ils ont cherché des boucs émissaires parce qu'ils ont besoin de se rassurer, et donc ils réclament de la protection, comme le disait Sylvie Kaufmann, ils réclament de la protection, et malheureusement, certains ont utilisé ce besoin de protection contre les migrants. Mais là, il faut aussi rappeler que d'abord, l'Europe, elle s'est construite sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, et donc avec ce souci des droits de l'homme. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui le terme de droits de l'homme, de droits de l'homme, soit quasiment devenu une insulte. Quand on dit qu'on défend les droits de l'homme, c'est presque on se fait presque insulter. C'est quand même ça l'origine de l'Union européenne, de la construction européenne. La question du droit d'asile, je suis frappée de voir à quel point elle n'est jamais revendiquée comme un droit magnifique. Comme une avancée mais majeure de l'humanité. Or, les gens qui traversent la Méditerranée, ben ils veulent tous quoi, de pouvoir déposer un dossier de demande d'asile.
Oui,
c'est-à-dire un droit fondamental que l'Union européenne devrait s'honorer de défendre, comme d'ailleurs tous les États démocratiques du monde le font.
Philippe
et si on renie nos valeurs, il faut pas s'étonner ensuite que l'Europe ne suscite plus la
Alors,
confiance.
Alors cela dit, vous parliez de confiance. Il faut quand même citer le dernier Eurobaromètre qui date d'octobre 2018. Hein, c'est-à-dire ce sondage trimestriel qui porte quand même, je crois, sur près de 30 000 citoyens européens, qui a révélé que 62% des citoyens européens continuent de considérer l'adhésion à l'Union européenne comme une bonne chose. Je crois d'ailleurs que c'est un record, ce chiffre, depuis 1989. Ça veut quand même dire quelque chose. Et en même temps, est-ce que c'est contradictoire, Philippe Manière, avec la montée de ces porte-voix, de ces porte-paroles néo-populistes ou néo-nationalistes dont on parlait à l'instant?
Non mais on a à l'instant abordé, enfin depuis quelques minutes, un sujet qui est fondamental et qui explique en grande partie le durcissement d'un certain nombre de régimes et le rejet de l'idée européenne, c'est la question des migrants. Alors d'abord, très brièvement, je voudrais quand même dire à Aurélie Filippetti que, heureusement, la crise de 2008, quoi qu'elle ait été très grave et qu'on s'en soit sorti difficilement et qu'elle ait fait beaucoup de dégâts, n'avait rien à voir avec celle de 1929. Ah bah d'une part,
en...
non, pardon.
Du
non,
système.
C'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait.
Ah bah
c'est-à-dire
oui,
que la crise de 29
a eu
un impact en termes d'effondrement de la croissance et de chômage. Sans comparaison, vous n'étiez pas né, vos parents
non plus.
Moi non plus.
Vous n'étiez pas né.
Mais précisément, j'allais vous dire, il faut s'en remettre aux historiens et aux spécialistes. La crise de 29 était d'une magnitude sans comparaison. Peu importe. Deuxième point, en France, on a fait beaucoup de choses pour amortir la crise. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Donc, c'est d'ailleurs en partie ce qu'on paye aujourd'hui par des dépenses publiques et des déficits très considérables. Et j'insiste au passage sur le fait que beaucoup de pays...
Un transfert de la dette privée vers la dette publique.
Non, vraiment, absolument pas. Alors ça, là encore, contrairement à ce qu'on raconte aux enfants, les banques n'ont quasiment rien coûté en France. C'est d'ailleurs le seul pays d'Europe auquel les banques n'ont rien coûté. Donc, il n'y a pas eu de transfert de la dette privée à la dette publique. Il y a eu des mécanismes de soutien qui nous honorent. Là, je partage votre point de vue et je viendrai un instant sur le droit d'asile.
Il y a eu des mécanismes d'aide européenne aussi. Il faut quand même le dire.
Il y a eu un peu de mécanismes d'aide européenne et de solidarité. Effectivement, alors là,
je voudrais dire
à Bertrand que les Allemands et les Grecs, c'est pas si simple, que les Allemands ont beaucoup fait, c'est évidemment eux qui ont fait le plus pour les Grecs, et que la raison pour laquelle les Grecs étaient dans la panade, ça n'était ni l'Europe ni la crise, c'était leur incurie spectaculaire des 20 années précédentes.
Il y a un institut économique allemand qui a calculé ce qu'a rapporté à l'Allemagne et notamment aux banques allemandes, les prêts consentis à la Grèce.
Mais bien sûr, avant la crise, tout le monde prêtait à la Grèce en croyant que c'était
depuis le fameux pacte de 2015.
Depuis, il y a eu des intérêts, mais il y a eu énormément de concours qui ont été apportés, il y a eu des transferts massifs. Vous savez qu'il y a des choses qui s'appellent les fonds structurels.
Le paradoxe, c'est qu'en fait, le transfert s'est fait de la Grèce vers l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui s'est enrichie. Mais non, c'est un institut économique allemand qui l'a montré.
Pas les uns sur les autres, s'il vous plaît.
Si vous prenez depuis 10 ou 12 ans ce qui s'est passé entre la Grèce et l'Allemagne, d'ailleurs entre la Grèce et les autres, et évidemment, nous avons beaucoup aidé la Grèce. Nous l'avons sans doute d'ailleurs fait trop à un moment, ce qui leur a permis de faire des bêtises. Mais on ne peut pas dire que l'Allemagne n'a pas financé la Grèce, n'a pas aidé la Grèce. Tout le monde est toujours réticent, parce que vous avez quand même des électeurs à l'idée de donner de l'argent public à un pays tiers, c'est normal, c'est des négociations qui ont lieu qui étaient difficiles, mais on ne peut pas dire que la Grèce ne s'en est pas tirée grâce à l'Europe en particulier, c'est un fait.
Alors maintenant, sur les migrants, les Allemands ont acheté des actifs grecs, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est pas parce qu'on achète des actifs qu'au total on n'y perd pas. Ça n'a rien, absolument rien à voir. Alors maintenant, sur l'Europe et les migrants. Moi, je suis complètement d'accord avec Aurélie.
Moi, je vous interrogeais sur l'eurobaromètre, par ailleurs.
L'eurobaromètre, qu'est-ce que vous voulez? Ça va, ça vient. Et puis, effectivement.
Ça va, 62% de citoyens européens qui disent qu'ils sont encore attachés à l'idée de cette adhésion à l'Union.
Mais bien sûr, tout le monde est attaché à l'idée
européenne.
Ça ne veut rien dire. Parce que derrière l'idée européenne, comme on l'a dit depuis le début de cette conversation, il y a 1000 choses. Donc, moi aussi, je suis attaché à l'Europe. On est tous ici autour de la table attachés à l'Europe, malgré nos. Exactement. La question, c'est quelle Europe? Donc, voilà. Si je vous demande, par exemple, est-ce que vous préférez le beau temps à la pluie, vous avez normalement un nombre assez important de gens qui vont dire je préfère le beau temps. C'est presque comparable, tellement c'est fumeux, l'idée européenne.
Pour aller plus loin, je vais toujours citer cette Eurobaromètre, ne vous en déplaise. Les sondés disent qu'ils ont 3 thèmes de prédilection qu'ils veulent voir mettre en avant dans cette campagne des européennes. En effet, en première position, l'immigration, en deux, l'économie, en trois, le chômage des jeunes, puis enfin, la lutte contre le terrorisme.
Absolument. Donc, moi, je voudrais venir un instant sur les migrants. Je suis parfaitement d'accord avec Aurélie sur le fait que le droit d'asile est une merveille qui nous honore et qu'il faut l'accorder aux gens qui le méritent. C'est d'ailleurs exactement ce que prétend faire l'Europe. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un problème opérationnel, il y a une question opérationnelle qui est insoluble. C'est quand quelqu'un postule au droit d'asile, le temps qu'on examine son dossier, ce qui est d'ailleurs très difficile, il est admis dans l'Union. Et ensuite, une très grande partie des gens qui seront ensuite déboutés se perdent dans la nature. Je suis très heureux pour eux. Ils viennent trouver une vie meilleure en Europe. Ils prétendent avoir droit au droit d'asile. On leur dit que non parce qu'on instruit leur dossier. Et puis ensuite, ils peuvent réussir en Europe plus facilement qu'en Afrique ou au Moyen-Orient. C'est formidable pour eux. Mais les peuples d'Europe nous disent « Ne vous moquez pas de nous. Vous laissez rentrer en grande masse et en masse qu'on trouve excessive par rapport à ce qu'on souhaite en termes d'équilibre, d'identité, etc. Peu importe qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, les peuples nous disent ne vous moquez pas de nous à la faveur du droit d'asile. Mais si vous voyez bien ce que disent les élections, ce que disent les électeurs dans toutes les élections, dans la quasi-totalité des pays de l'Union depuis 10 ans, c'est de ça qu'on parle depuis maintenant une heure. Les peuples, je finis juste, je fais ma phrase et puis je vous laisse me répondre, Bertrand. Les peuples nous disent le droit d'asile, on n'est pas contre. Le problème, c'est qu'on voit rentrer en Europe des tas de gens qui n'y ont pas droit, qui se perdent dans la nature. Et c'est ça, je crois, que les Européens rejettent pour des raisons qu'on peut comprendre de maintien d'une certaine homogénéité.
Bertrand Badie.
Oui, d'abord, ça fait 20 ans que l'on vend les politiques anti-migratoires comme marchandises électorales favorites et que quantité d'entrepreneurs politiques en France ou partout en Europe se retrouvent pour effectivement faire de l'argument anti-migratoire l'élément déterminant.
C'est pas si vieux que ça en France. Hein. Franchement, pendant très longtemps, tous les partis au pouvoir étaient plutôt favorables à l'immigration, en tout cas pas hostiles résolument.
Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que le vent a tourné et que l'immigration est devenue, avant d'être un objet de politique publique, est devenue une marchandise électorale. Et effectivement, à grand renfort de propagande qu'il faut bien considérer comme mensongère. Absolument. C'est-à-dire la diabolisation, la stigmatisation du migrant. Le fait que même dans les mouvements de gilets jaunes, ça sortait de temps en temps cette espèce d'hostilité à l'encontre de l'étranger.
Vous y voyez la preuve d'une manipulation. Moi, je pourrais y voir la preuve d'une sincérité, de la réalité de cette problématique du point de vue des gens, franchement.
Sauf que c'est le même jour intuitivement où on ouvrira un vrai débat sur la migration qui ne soit pas jalonné d'a priori, les choses peut-être changeront. Mais je dirais, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est ce négationnisme permanent, ne pas voir que le monde a changé. Le monde a changé, ça veut dire qu'on est entré dans le siècle, peut-être dans le millénaire de la mobilité. Il faut s'adapter à ce paramètre nouveau. On voit bien que la courbe de la migration monte, pas de manière d'ailleurs brutale et violente, mais de manière progressive. Parce que c'est facile de comprendre que l'habitant d'un bidonville de Lagos, maintenant, a beaucoup plus présent
enfin, même si on va quand même juste rappeler un chiffre, 80% des migrations africaines sont des migrations inter-africaines, c'est-à-dire
bien
qu'elles
sûr,
restent sur le continent
mais
africain.
Voilà, c'est la raison pour laquelle ce phénomène n'est pas un phénomène aussi monstrueux et aussi effrayant au sein de l'Europe. Donc, la chose qui devient nécessaire, en quelque, c'est toujours la même chose, c'est adapter nos catégories et nos politiques publiques à un changement du contexte international. Ça, c'est la grande faiblesse de l'Europe. Quand vous voyez les puissances émergentes, quand vous voyez les pays du Sud ont une élasticité dans leur capacité de s'adapter aux paramètres nouveaux du monde que nous, nous n'avons pas en Europe. C'est ce dont nous sommes en train de mourir à mort lente.
Alors, voilà. Il y aura, on l'aura compris, la question migratoire fondamentale dans cette campagne des européennes, la question de la survie de la puissance, puisqu'il y a aussi ce raisonnement selon lequel, évidemment, chaque nation seule ne peut rien face, évidemment, à la concurrence de la montée de la puissance chinoise ou de ces autres puissances émergentes. Et puis, il y a une autre thématique qu'on entendra sans doute également, ce qu'on appelle aujourd'hui les ingérences étrangères ou les ennemis de l'Europe. Alors, on parle bien sûr souvent de Vladimir Poutine qui associe l'Union européenne à l'OTAN, c'est-à-dire un projet atlantiste qui vient l'encercler à ses frontières. On pense bien sûr aux États baltes. Il y a Donald Trump qui, lui, n'aime pas l'Europe en tant que concurrent commercial, qui n'aime guère d'ailleurs beaucoup non plus le multilatéralisme. Alors, Donald Trump aurait, paraît-il, en Europe un représentant, Mike Pompeo, Sylvie Kaufmann. Présentez-nous ce personnage avant qu'on l'entende rapidement.
Enfin, c'est surtout c'est le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo. Et il a fait, début décembre, à Bruxelles, il a prononcé un discours, et je dis bien à Bruxelles parce que c'était devant un auditoire européen. Et dans ce discours, il a formulé, d'une certaine manière, la politique étrangère la doctrine, si on peut dire, de politique étrangère américaine, qui est un procès en multilatéralisme.
On l'écoute, Mike Pompeo.
Nos amis européens disent parfois que nous n'agissons pas dans l'intérêt du monde. Ceci est tout simplement faux. Nous entendons réaffirmer notre souveraineté, réformer l'ordre international libéral, et nous voulons que nos amis nous aident et exercent également leur souveraineté. Nous aspirons à faire en sorte que l'ordre international serve nos citoyens, et non pas qu'il les contrôle. L'Amérique entend bien assumer un rôle de leader, maintenant et à jamais.
Sylvie Kaufmann, fantasme ou réalité, ces ingérences étrangères, russes ou américaines et américaines qui tenteraient de faire exploser ce qu'il resterait du projet européen?
Elles sont très différentes, hein,
bien sûr.
Évidemment, et on peut parler des chinoises aussi. Le fait est que l'Europe se trouve en cette fin de décennie 2010 au centre de toutes les hostilités, finalement. Donc elle est l'objet des hostilités ou des visées chinoises en termes d'investissement notamment, mais aussi d'espionnage, de contrôle, de prise de contrôle. On l'a vu encore récemment sur un espionnage des instances européennes, des télégrammes diplomatiques européens par des hackers chinois, de piratage de données européennes en fait. Elle est bien entendu l'objet d'actes hostiles de Russie. Et puis, d'une autre manière, et ça je crois que c'est le grand changement de l'année 2018, on s'aperçoit, on constate ce qu'on ne voulait pas voir ou ce qu'on espérait qui n'était pas la réalité depuis l'élection de Donald Trump, que notre grand allié, notre plus fort allié, les États-Unis, finalement, n'agissent pas dans notre intérêt. Et là, Pompeo le dit très clairement, notre intérêt, c'est l'intérêt de la nation américaine, et l'Amérique continuera. Son discours s'intitulait « Rétablir le rôle de l'État-nation dans l'ordre libéral international ». Donc l'État-nation, c'est les États-Unis. Il dit « Les États-Unis continueront à assumer leur leadership, mais leur leadership pour défendre leur propre intérêt. » Donc cette grande idée
ce
de
qui va avec les annonces en effet du départ des États-Unis qu'on a pu entendre.
Voilà, alors là-dessus quelques semaines après, Trump annonce par un tweet comme d'habitude le retrait des troupes américaines de Syrie en Syrie, c'est quand même les États-Unis dirigent une coalition dont font partie des Européens, notamment les Français, et ils les laissent planter là. Il dit « je retire mes troupes de Syrie et les autres qu'ils se débrouillent, nos alliés qu'ils se débrouillent ». C'est quand même, je crois, sans précédent dans cette alliance atlantique. Donc là, les Européens, et voyez Mike Pompeo, il vient à Bruxelles et il dit aux Européens « voilà, nous, c'est nous qui décidons, le leadership américain, l'OTAN, la seule organisation dont il dit du bien, la seule organisation internationale dont il dit du bien dans ce discours, c'est l'OTAN ».
On l'avait bien compris d'ailleurs déjà au moment du 11 novembre avec la polémique sur la création d'une armée européenne.
Et donc là, il dit l'OTAN, c'est une organisation très importante qui est dirigée par les États-Unis, ce qui veut dire vos chimères, comme dirait Philippe Manière, d'armée européenne, gardez-les, parce que l'OTAN, c'est nous. N'est-ce pas? Les États-Unis. Donc, je crois que là, ça pose vraiment un paysage. Et la démission du général Mattis, le ministre de la Défense, l'illustre aussi très bien, puisqu'il l'a dit très clairement dans sa lettre de démission qu'il quittait l'administration Trump parce qu'il était en désaccord total avec sa politique étrangère. Philosophique, un désaccord fondamental, philosophique sur la conception de cette politique étrangère, notamment vis-à-vis des alliés. Donc là, je crois que les Européens, puisque c'est le thème de cette émission l'Europe en 2019, c'est une composante très très importante. Je crois que c'est plus grave pour nous que la Russie ou la Chine, parce qu'il va falloir totalement repenser la manière dont on regarde le monde, en réalité.
Tout simplement.
Oui, il faut se repositionner face à des États-Unis qui sont ce que vient de décrire très justement Sylvie, c'est-à-dire aujourd'hui très isolationnistes. C'est pas complètement nouveau qu'on ait ni amis ni ennemis, mais que des intérêts. Ça a été dit par toutes sortes d'hommes d'État de toutes sortes de pays, dont certains français. Mais il est vrai, et c'est ce que très justement Mathis a rappelé dans sa lettre de démission, qu'il y avait quand même une tradition américaine de s'appuyer, de travailler avec les alliés. Il faut savoir que Pompeo, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que il est arrivé premier à West Point, summa cum laude d'Harvard, enfin c'est pas un zozo qui passe, c'est un homme très remarquable, très intelligent, très bien formé et qui se trouve dans la situation d'être un peu le porte-parole de Trump, le porte-parole de Trump pour dire des choses qui sont très orthogonales effectivement à la tradition déjà assez ancienne des États-Unis. Cela dit, et je finis là-dessus, il faut quand même pas oublier que c'est pas les États-Unis notre ennemi principal, c'est-à-dire que ça nous met dans la situation de devoir nous repositionner, mais notre ennemi, ceux qui nous attaquent tous les jours par le cyber en particulier, ce sont quand même les Russes, les Nord-Coréens, et les Chinois, excusez du peu.
Justement, dans ce monde-là que vous nous dépeignez chacun à votre manière autour de cette table, quels seront les arguments de campagne de ceux qui, malgré tout, demeurent europhiles, Aurélie Filippetti? Est-ce que le combat va se porter sur le terrain des valeurs? Et en même temps, comme le disait Sylvie Kaufmann tout à l'heure, parler de démocratie ou de liberté paraît presque quelque chose du monde d'avant. Ou est-ce qu'il faut mettre en avant la survie des Européens dans la mondialisation, à l'heure de l'hyperpuissance chinoise, de l'arrivée de nouveaux acteurs, est-ce que c'est cet argument-là dont il faut user?
Moi, je pense qu'il y a un domaine dans lequel l'Europe a toujours été en pointe et finalement extrêmement, même avant-gardiste par rapport aux États, et qui est un domaine en plus avec une urgence absolue, c'est la question environnementale. Et jusqu'à très récemment, l'Europe avait pris une série de directives qui, en fait, contraigner les États à prendre des bonnes politiques de protection de l'environnement et de la biodiversité. L'Europe a totalement reculé sur ce terrain-là et il faut qu'elle reprenne sa place parce que sur la question du changement climatique, mais plus généralement de la crise écologique, seule l'Union européenne peut nous permettre de trouver des solutions collectives. On voit bien que individuellement, État par État, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas la bonne échelle pour prendre ce genre de décision. Il faut donc que l'Union européenne redevienne un moteur dans la lutte contre le changement climatique et dans les politiques écologiques. Et à mon avis, c'est ça qui doit être au cœur, finalement, de cette campagne. Et ça permet en plus de rappeler, au fond, que, d'accord, il y a des questions, etc. Mais enfin, il y a la question, tout simplement, de notre survie. Et que tous les scientifiques de la planète, 15 000 scientifiques, l'année qui vient de s'écouler, 15 000 scientifiques du monde entier ont tiré la sonnette d'alarme en disant il y a une urgence absolue.
L'urgence climatique au cœur peut-être de cette campagne des européennes, mais aussi, j'y reviens, Bertrand Badi, avec vous, cette thématique du discours de la survie et de la puissance, c'est notamment celui que tient assez régulièrement une Angela Merkel. On l'écoute.
Vous, les 751 représentants de 28 pays, représentez plus de 500 millions de personnes, soit approximativement 7% de la population mondiale. Dans votre maison, nous sentons battre le cœur de la démocratie européenne. Cela se voit dans les débats qui sont tenus dans 24 langues différentes, et cela décrit quelque chose qui fait l'Europe, sa diversité. Il est de moins en moins possible de défendre ses intérêts seuls sur la scène globale. Il est donc devenu de plus en plus important pour nous, Européens, d'être unis.
Voilà Angela Merkel qui s'exprimait devant le Parlement européen le 13 novembre dernier. Bertrand Badi, ne pas défendre seul ses intérêts et donc rester dans l'Union. Est-ce que ça, c'est de l'idéologie européiste ou est-ce que c'est la réalité du monde dans lequel on est aujourd'hui ?
Non, c'est la première partie de la disserte et très bien, mais il manque la deuxième partie. C'est-à-dire, effectivement, même unie, l'Europe, ce n'est que l'Europe, c'est-à-dire ce qu'elle dit elle-même, 500 millions sur 7 milliards et demi. Alors, il faut voir, en fonction de ce qu'on a entendu, effectivement, le discours de Pompeo est tout à fait intéressant. C'est une rupture gigantesque que je trouve qu'on n'a pas suffisamment souligné. C'est-à-dire que pour la première fois depuis bien longtemps, depuis 1945, les États-Unis présentent leur hégémonie comme une hégémonie auto-centrée et non pas comme ce qu'on appelait le benign leader, c'est-à-dire ce leader bienveillant, ce gentil gendarme qui vient en quelque sorte régler pacifiquement et pour le bien la circulation mondiale. Et ça, c'est terminé. Alors, ça veut dire quoi en même temps ? Ce retour vers l'auto-centré, c'est bien sûr le retour de la nation, c'est-à-dire pas la nation du 19e siècle, rien à voir, mais cette notion de repli, cette nation de repli et d'embastillement, mais ça veut dire que par la même occasion, la notion d'Occident perd son sens. C'est-à-dire, il n'y a plus de camp occidental. À partir du moment où M. Trump, dans certains de ses élans, considère que l'Europe est pratiquement l'ennemi des États-Unis, il a même employé le terme « ennemi des États-Unis ».
Bon, mais s'il n'y a plus de camp occidental, est-ce qu'il y a un camp européen ?
Alors,
est-ce que ça signifie
alors,
encore
voilà,
quelque chose ?
C'est là que je voulais en venir. Il n'y a plus de camp occidental. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt un paramètre historique fondé, n'est-ce pas ? Que doit-on faire à partir du moment où ces vieilles solidarités sont en train de s'écrouler ? Je crois qu'effectivement, on est dans la mondialisation. La mondialisation passe nécessairement par le regroupement régional. C'est pas vrai de l'Europe. C'est vrai, pas vrai seulement de l'Europe. C'est vrai de toutes les régions du monde. Donc, effectivement, Angela Merkel a tout à fait raison. Il faut commencer par reconstituer des blocs qui sont en quelque sorte des lieux d'apprentissage de la mondialisation. Parce qu'elle le dit très bien, la finalité de la construction régionale, ça ne doit surtout pas être nous contre les autres. Et ça, c'est un peu trop ce que l'on a en tête aujourd'hui quand on parle de construction régionale. Ça doit être nous en partenariat avec les autres. Et pour être en partenariat avec les autres, il faut être ensemble. C'est ça que ça signifie, la nouvelle équation régionale.
Oui, avec des projections qui sont quand même sans appel. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, s'il n'y a plus cette unité européenne, notamment sur un plan commercial. Seule l'Allemagne, je crois, est dans le G20 et plus aucune autre
tout à fait.
Puissance européenne.
Mais tout à fait. Mais seulement, le mot dont on n'a pas suffisamment parlé ici est alors incontournable, c'est multilatéralisme. C'est-à-dire que, j'en ai parlé encore hier soir à Monsieur de la Palice, à partir du moment où on est dans la mondialité, on ne peut pas faire autrement que passer par la gouvernance globale. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun sens.
Pardon, c'est une fausse logique. C'est-à-dire que la mondialisation est un phénomène.
Vous n'aimez pas Monsieur de la Palice.
Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors, simplement, il ne peut pas s'exprimer sur tous les sujets avec la même compétence, si je peux me permettre. Et donc, le glissement sémantique que vous opérez est certainement fait de bonne foi, mais c'en est un. Et
il distord la conversation. La mondialisation économique est un phénomène spontané et il n'a rien à voir.
Attendez, la mondialisation n'est pas seulement économique, cher monsieur. Quand il est question d'environnement, il y a un bien commun, il y a un bien commun de l'humanité.
Ai-je dit le contraire? Ai-je dit le contraire?
Je dis simplement que mondialisation économique.
Mais parce que la mondialisation qu'on constate et qu'elle fait générateur, dites-vous, de la nécessité de s'organiser est un phénomène que personne n'a particulièrement souhaité, qui tient simplement au fait que le progrès technique, le progrès des communications, le désir des consommateurs fait que les chaînes de valeur, l'industrie, la distribution, la consommation se sont mondialisées.
Il y a aussi des accords de libre-échange.
Bien sûr, il y a des accords de libre-échange qui permettent ça, mais ils préexistaient à la mondialisation et c'est pas eux qui expliquent absolument tout de la mondialisation. La mondialisation dite politique, elle est quasiment contre nature, à la différence de la mondialisation économique qui est spontanée.
Je ne vous ai pas parlé de mondialisation politique.
Mais parce que vous dites qu'il faut quelque chose qui corresponde à la mondialisation.
Oui, une gouvernance globale, des biens communs, de l'humanité, des biens communs.
Pardonnez-moi, de la SDN à l'ONU, en passant par tout ce que vous pourriez imaginer entre les deux et au-delà, on a vu à quel point c'était difficile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer.
Mais ça marche très bien quand on laisse faire. La vaccination en Afrique grâce à l'OMS, c'est négligeable. C'est négligeable qu'on ait éradiqué la variole en Afrique, c'est négligeable.
Pardon Bertrand, vous savez bien que ce n'est pas de ça que vous parliez, sinon je vous aurais évidemment donné raison. On parle d'une gouvernance mondiale, et donc d'une gouvernance mondiale qui pourrait en quelque sorte donner des gages aux peuples européens et qui permettrait d'avancer sur des sujets qui ne sont pas évidemment consensuel, comme vous le disiez, est évidemment nécessaire, comme la lutte contre les maladies en Afrique. Ça, il n'y a pas de discussion sur le sujet.
Non, pardon, je voudrais juste que du coup, il faut parler de l'armée. L'évasion fiscale, par exemple.
Oui, très bien, pardon, l'évasion fiscale. Mais ça n'arrivera pas. Aurélie, moi je suis.
Et l'insécurité alimentaire et l'insécurité
en France. Mais en même temps, Philippe Manière, puis Aurélie Philippe Petit.
Je finis juste sur ce qui pourrait seul fonder une souveraineté européenne, à laquelle je crois modérément dans les termes que vous avez décrits, mais admettons qu'elle soit souhaitable, il faudrait une armée européenne pour incarner cette souveraineté européenne.
Mais moi, je ne vous ai pas parlé de souveraineté européenne.
J'ai bien compris, mais moi, je vous dis que si on va sur le chemin que vous esquissez, il faut bien qu'il y ait une forme de souveraineté ou d'incarnation pour compléter, pour peser face à l'hégémon américain ou pour peser face aux méchants qui nous volent du mal partout ailleurs. Donc, on peut imaginer qu'il faudrait une défense européenne. Et là, on voit bien qu'on bute, encore une fois, sur la réalité européenne qui est un puzzle. Vous avez des atavismes, des déterminismes, des Suédois, des Hongrois, des Polonais, des Français, des Allemands, etc., qui font que tout ça n'est pas possible opérationnellement ou très difficilement. Et qu'on ne va pas bien loin. Et pardon, je finis juste sur un mot d'espoir, parce que ce qu'on a dit sur l'Europe, a commencé par moi, n'est pas très optimiste. Moi, j'en viens à me demander si le Brexit ne permet pas d'imaginer la reconstruction d'éléments d'Europe, mais beaucoup plus limités, parce qu'à 28 pays, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ce qu'on voit tous les jours. Comme vous le savez, l'Union européenne interdit pratiquement les coopérations renforcées, parce qu'il faut les ouvrir à tous. À partir du moment où le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Europe, moi, je pense qu'on peut imaginer. Elles existent, mais elles sont très contraintes par les traités, ce qui est d'ailleurs normal et compréhensible. Ouais. Si on veut se dire, ok, il y a des choses qu'on veut faire à deux, à trois, à quatre, une fois qu'on les fera avec le Royaume-Uni quand il ne sera plus dans l'Union, moi je pense que ce sera plus facile. Alors, et je finis juste en citant, puisqu'il n'est pas là, Hubert Védrine, je pense que c'est peut-être l'occasion de faire une pause, puisque c'est ce qu'il recommandait dans son précédent livre, vous souvenez, sur l'Europe. On voit bien qu'il y a un problème de limite d'acceptabilité de l'Europe telle qu'elle est, à tort ou à raison, les peuples ne sont pas confortables avec cette Europe, il faut peut-être faire une pause.
Alors, justement, vous parlez du Brexit, des difficultés du Brexit, qui au moment où nous parlons n'est pas encore réalisée, qui montre quand même, on pourrait tenir le discours inverse au vôtre, que quitter l'Union est loin d'être un long fleuve tranquille, que d'ailleurs les Européens ont retrouvé une sorte d'unité pour ne pas faciliter ce Brexit, et qu'aujourd'hui plus personne, en tout cas au sein de ceux qui restent en Union Européenne, ne demande à faire la même chose que la Grande-Bretagne. Est-ce que cela ne finalement contredit pas totalement tout ce qui vient d'être dit, Aurélie Filippetti?
Bien sûr que le Brexit, en l'occurrence, c'est compliqué. Quand on voit qu'il y a même des discussions en Grande-Bretagne aujourd'hui sur la possibilité d'un second référendum, on se dit que là, on atteint vraiment, même si j'étais évidemment totalement opposée au Brexit, enfin bon, on ne peut pas faire revoter les gens quand le vote qui a eu lieu n'était pas dans le sens de ce qu'on attendait. Donc on a joué avec le feu. Avec ces histoires de référendum, puisque de toute façon, les gens ont dit non, non pas à l'Union européenne sur le principe, mais à ce qu'ils voyaient comme conséquences concrètes sur, finalement, leur situation économique, sociale, de politique, qu'ils ont assimilée aux politiques libérales de l'Union européenne. Donc, je Je ne pense pas que ça dissuade malheureusement hein, les peuples ou les gens de voter pour des mouvements populistes aux prochaines élections européennes. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être...
Pas de parti n'appelleront au Frexit à part peut-être François Asselineau.
Oh oui, mais en l'occurrence, envoyer au Parlement européen des députés anti-européens, c'est le meilleur moyen de bloquer l'Europe, effectivement. Et c'est ce qui nous menace. Donc même s'il n'y a pas de Frexit... Au fond, on arrive à une forme d'impasse. Enfin, on coupe le moteur de l'Union européenne. Et c'est quand même très grave.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois que c'est une des leçons du Brexit. Et ça rejoint votre baromètre, votre eurobaromètre dont vous parliez tout à l'heure. En réalité, les membres de l'Union, les États membres de l'Union européenne se regroupent quand ils perçoivent une menace extérieure. On l'a vu par exemple sur les sanctions contre la Russie, qui sont en place depuis 2014, depuis l'intervention, l'annexation de la Crimée et l'invasion de l'Est de l'Ukraine. On a beau dire que l'Italie, la Hongrie, les Grecs, je ne sais quel pays encore, est beaucoup plus russophile que d'autres et que et finalement, tous les six mois, ces sanctions sont reconduites. Et les Italiens, Salvini, le gouvernement de Salvini les a encore votées en décembre. Et les Hongrois aussi. Et les Hongrois disent, ces sanctions, elles nous gênent, elles nous causent beaucoup de tort, mais on ne veut pas mettre en danger l'unité de l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé avec le Brexit. Et finalement, bon, s'il faut terminer sur un point positif, il y en a quand même quelques-uns. On voit bien que cette Union européenne, les gens y tiennent. Après, quelle Union européenne ? Quelle Europe ? On va passer notre temps à la redéfinir et à essayer de la faire avancer et de la faire marcher, et de la faire marcher pour les peuples, puisque c'est ce qu'on disait au début. Mais on voit bien que c'est quand même un concept, un projet, une construction à laquelle les gens sont attachés.
Cet attachement et cette construction, évidemment, nul n'en parlait mieux que Simone Veil. Je vous propose qu'on la réentende, l'Europe comme victoire contre la guerre et le chaos. Back to basics.
J'ai des convictions européennes très profondes, car c'est lié pour moi au passé et au présent et au futur de la France. Au passé parce que aujourd'hui, on a oublié ces conflits sanguinaires pendant des siècles. On n'y pense plus, on manque d'imagination et on se dit ça ne reviendra pas. Rien n'est prouvé dans ce domaine. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès parce que depuis 20 ans, il y a eu un progrès continu et que ce progrès, très largement, il est dû à la construction européenne et que maintenant, nous sommes déjà confrontés à des contradictions bien plus difficiles, une situation économique grave pour le monde entier. Eh bien, pour ma part, je suis convaincue que seule l'Europe permet d'affronter toutes ces difficultés, toutes ces contradictions. Et puis enfin, pour moi, c'est un engagement profond parce que l'Europe, c'est aussi l'Europe de la démocratie, l'Europe des valeurs. Nous savons très bien qu'il n'y a presque plus de démocratie au monde. On les compte en dehors de l'Europe occidentale, presque sur les deux doigts de la main. Alors pour moi, en définitive, je dirais simplement que l'Europe, c'est une assurance pour l'avenir, pour nous et pour nos enfants.
C'est vous, Aurélie Fipetti, qui vouliez réentendre Simone Veil ?
Oui, d'abord parce que Simone Veil est entrée au Panthéon cette année. Et puis parce que ça a été la première femme présidente du Parlement européen. Ça a été la première présidente du Parlement européen, pardon, en 1979. Et que dans son discours d'investiture à la tête du Parlement européen, elle avait prononcé ces mots, bien sûr, de paix, de liberté. Mais elle avait aussi parlé du bien-être des populations et de la solidarité qui devait être au cœur de la construction européenne telle qu'elle la défendait, telle qu'elle la concevait. Donc je pense qu'il faut revenir justement aux origines, aux sources, et non pas au père fondateur, mais peut-être aux mères aussi, fondatrices, et se rappeler que c'est ça, et ça doit être ça l'Europe. Et je pense que ce que les peuples attendent de l'Europe, c'est ça.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre, Bertrand Badi, Sylvie Kaufmann, Aurélie Filippetti et Philippe Manière d'avoir été nos visiteurs ce dimanche. Merci à Luc Jean-Reno qui a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui, comme toujours, l'a préparée avec moi, et un grand merci à notre stagiaire cette semaine, Louise Curivant. À la technique aujourd'hui, c'est Guillaume Ledu. Ainsi s'achève la saison 2018 de l'Esprit Public qui reviendra évidemment en grande forme en 2019, c'est-à-dire dès dimanche prochain avec cette fois Sylvie Goulard, Hubert Védrine, François-Xavier Bellamy et Thierry Pêche. Bon réveillon, tous nos vœux de bonne année. À la semaine prochaine, à l'année prochaine.